Mélissa Généreux, directrice de la santé publique en Estrie, bonjour.
Bon matin.
On voulait en parler la semaine dernière. Finalement, on a eu quelques contretemps. Là. Mm-hmm. Il s'est passé d'autres choses. Des fois, en matière de santé publique, ça bouge beaucoup. Et le mois d'octobre, au grand complet, de toute façon, sert à la sensibilisation du cancer du sein. C'est ce matin qu'on en parle. Mm-hmm. Comment ça se déroule? Comment ça se passe présentement avec le cancer du sein? Est-ce qu'on progresse? Est-ce qu'il y a des avancées intéressantes? Est-ce qu'il reste beaucoup de sensibilisation à faire?
Il y a toujours de la sensibilisation à faire parce que le cancer du sein, c'est le cancer le plus fréquent chez les femmes. On parle d'une femme sur 8 qui va avoir un diagnostic de cancer du sein dans sa vie. Là, c'est énorme. Puis c'est le deuxième cancer le plus mortel avec une femme sur 31 qui va en décéder. Puis concrètement, là, en Estrie, ça veut dire que c'est plus de 6 femmes par semaine qui reçoivent un diagnostic. Là, c'est quand même majeur. Donc oui, je pense que c'est important qu'on continue d'en parler encore et encore.
Fréquence, symptômes et stade de développement.
Oui, bon, la fréquence, on vient d'en parler, c'est quand même très fréquent. Je dis pas que c'est en augmentation, mais c'est une maladie là, qui est quand même là pour rester. Par contre, au niveau des symptômes, ce qui est important à savoir, c'est que, elle peut passer inaperçue, cette maladie-là, le cancer du sein, mais il y a quand même une importance de bien connaître ses seins. Donc, il faut être à l'affût de toutes sortes de changements. Donc, si on voit une bosse qui apparaît ou un creux au niveau du sein, si on a un changement au niveau de la peau comme durcissement, épaississement, un peu comme la peau d'orange, mm-hmm. ou une nouvelle rougeur qui apparaît, ou encore un changement au niveau du mamelon, la rétraction, écoulement, ou un changement au niveau de la taille, la forme du sein, ça, c'est vraiment tous des symptômes qui devraient nous amener à consulter rapidement le médecin. Donc ça, c'est
évidemment, plus on en cumule, moins ça va bien. Là.
Ben, en fait, dès qu'on a un de ces symptômes-là, moi, j'irai directement consulter le médecin pour en avoir le cœur net. Puis une autre particularité, en fait, lorsqu'on parle de cancer en général, puis ça s'applique très bien au cancer du sein, c'est qu'il y a des stades. Hein, puis c'est là toute la pertinence du dépistage, c'est que le dépistage permet de détecter à un stade plus précoce. Donc peut-être si on veut exposer les différents stades du cancer du sein, le stade zéro qu'on appelle le in situ, on parle d'un petit amas de cellules cancéreuses très, très, très localisées qui n'ont pas envahi le tissu mammaire. Et à ce moment-là, si on le détecte au stade zéro, les chances de survie sur 5 ans sont de presque 100%. Ensuite, il y a le stade 1 ou 2A, où là, malheureusement, la tumeur a grossi, mais moins de 5 cm, et ça l'a affecté maximum 3 ganglions. C'est quand même encore bien. Ensuite, il y a le stade 2B ou le stade 3. Là, malheureusement, on a augmenté la taille de la tumeur à plus de 5 cm, puis elle peut s'être propagée à la peau, aux muscles, et avoir touché plus que 3 ganglions. Et le stade qu'on redoute le plus, c'est le stade 4 métastatique, où là, la tumeur a atteint d'autres parties du corps. Et à ce moment-là, la survie s'est abaissée à 22 % sur 5 ans.
Quand même pas mal plus faible.
Oui.
Dépistage.
Bon, c'est sûr qu'il y a des facteurs de risque peut-être avant d'aller dans le dépistage sur lesquels on peut agir. Donc, je ne dis pas que la prévention de l'apparition du cancer du sein est facile, mais il y a quand même certains leviers dont on dispose. Donc, consommation d'alcool, de tabac, inactivité physique et obésité après la ménopause, ce sont tous des facteurs de risque de toutes sortes de problèmes de santé, notamment le cancer du sein.
Le facteur familial, j'imagine aussi, on surveille
oui.
ça?
Oui, on le surveille, mais... Évidemment, on n'a pas le moyen là, d'agir là-dessus, mais lorsqu'on sait qu'il y a une histoire familiale, ça vaut vraiment la peine d'en parler mm-hmm. avec notre médecin pour voir si ça vaut
si
pas la peine d'avoir un dépistage
plus précoce.
Plus tôt. Ouais. Exactement. Mm-hmm. Sinon, il y a les fameux facteurs hormonaux quand même, je vais en parler, c'est pas aussi bien connu. Donc, le fait de prendre des hormones de remplacement après la ménopause, là, pour les symptômes de ménopause, pendant plus de 5 ans, ça augmente nos risques de cancer du sein. Donc, c'est vraiment à discuter avec le médecin, voir la pertinence là, de prolonger ou pas au-dessus de 5 ans. Le fait de ne pas allaiter, le fait d'avoir eu une grossesse après l'âge de 30 ans ou de jamais avoir eu de grossesse, tout ça, c'est des facteurs qui viennent affecter là, les hormones et qui augmentent nos risques de cancer du sein.
Je ne veux pas t'embarquer dans quelque chose de fragile, mais on entend toutes sortes d'affaires sur la pilule contraceptive. Peut-être que tu as déjà entendu parler mm-hmm. Est-ce qu'il y a quelque chose de fondé là-dedans ou c'est complètement du vide?
Mais c'est intéressant que tu en parles parce qu'il n'y a pas tout à fait un consensus justement à cet effet-là. Okay. Là, il y avait cette notion-là que de prendre des contraceptifs oraux pendant plus de 10 ans augmentait mm-hmm. aussi nos risques. Mais d'un autre côté, il y a d'autres grandes organisations qui le remettent en question. Donc, et dans la balance là, des avantages versus des inconvénients, là, c'est vraiment pas tout le monde qui s'entend pour dire que les contraceptifs oraux, après 10 ans, c'est à proscrire. Donc, c'est vraiment à discuter avec votre médecin à ce niveau-là.
On revient donc au dépistage.
Oui. Donc, justement, les facteurs de risque sont quand même relativement limités. Donc, de s'assurer de tout faire pour prévenir l'apparition du cancer du sein m'apparaît un peu utopique. Par contre, le dépistage à un stade précoce, comme on disait, par la mammographie, ça permet d'augmenter le taux de survie, ça c'est certain. Et deuxième avantage, c'est qu'au moment où on reçoit le diagnostic, si c'est plus précoce, ça diminue nos chances d'avoir besoin d'un traitement qui est plus agressif. Donc, on parle entre autres d'une chirurgie qui pourrait être moins étendue, moins mutilante au niveau des seins, c'est quand même assez important. Puis moins de chances d'avoir besoin de recourir à de la chimiothérapie, là, qui est quand même pas agréable. Donc, ça fait plusieurs bonnes raisons. Par contre, j'aime mieux être transparente. C'est pas non plus le test parfait, parce que même si on fait la mammographie à tous les 2 ans, il est quand même possible qu'on loupe, qu'on passe à côté d'un cancer. C'est possible. Et à l'inverse, c'est aussi possible qu'on ait un faux positif, c'est-à-dire que le dépistage montre une anomalie. On fait des tests supplémentaires, puis finalement, ça se révèle être normal. Donc, ça peut causer, si on veut, de l'inquiétude, des désagréments inutiles. Mais somme toute, on est quand même convaincu là, que c'est pertinent d'avoir un programme québécois de dépistage du cancer du sein pour toutes les 50 à 69 ans à tous les 2 ans.
Comment il marche ce programme-là?
Alors moi, je trippe là-dessus. Je trouve que c'est bien conçu. Donc, justement, à travers le programme, on rend ça simple, facile. Donc, il y a une lettre qui est envoyée à toutes les femmes de 50 à 69 ans en Estrie. C'est la même chose dans les autres régions. La lettre, elle est signée par moi, vu que je suis directrice de santé publique. Et la lettre fait office de prescription médicale. Donc, on n'est même pas obligé. Si on n'a pas de médecin, là, c'est pas un souci. On prend notre rendez-vous. On a 5 centres de dépistage, 2 à Sherbrooke, Cowansville, Granby et Granite. Donc, encore une fois, facilité d'accès. Et lorsque les résultats sont disponibles, ils nous sont envoyés par écrit. Et si on a un résultat anormal et qu'on n'a pas de médecin de famille, on vous assure un suivi auprès d'un médecin ou une infirmière spécialisée.
Donc, au moins, on est pris en charge rapidement.
Oui, c'est bien fait. Mmh. Puis, je veux juste spécifier pour les 70 ans et plus, je veux pas qu'on lance le message que c'est pas recommandé, la mammographie. Au contraire, c'est toujours recommandé. Par contre, c'est pas pris en charge par le programme. Donc, à ce moment-là, il faut vraiment avoir une prescription médicale de votre médecin.
Mélissa Généreux, merci d'être passée.
Ça m'a fait plaisir.